J'ai rencontré il y a quelques jours Grazia Caroni, conservateur à la Fondation Cartier et commissaire de l'Ombre du Fou Rire, première grande exposition européenne de Yu Min-jun, un des artistes les plus influents de sa génération. Véritable star internationale, il caracole loin en tête des ventes d'art contemporain chinois. En 2007, chez Sotheby's, The Execution devint l'œuvre la plus chère de l'histoire de l'art contemporain chinois, record battu depuis par d'autres artistes. La dérision fait lever, paraître, s'étaler dans un grand tremblement de sens, comme en un grand éclat de rire, une inconsistance universelle, nous dit François Julien à propos de l'œuvre de Yu Min-jun. On écoute Grazia Caroni pour en savoir un petit peu plus. Grazia Caroni, bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi cette exposition Yu Min-jun en France en ce moment à la Fondation Cartier ?
C'est un artiste très connu et en même temps on se rend compte qu'il n'a pas eu beaucoup d'expositions personnelles en France, en Europe même. Donc on s'était dit que sa réputation n'était pas à la hauteur de sa visibilité et on a essayé de combler ce manque. C'est-à-dire tout ça est venu d'une occasion en fait. On a pu le rencontrer dans son atelier à Pékin il y a déjà plusieurs années. On a parlé à plusieurs reprises de la possibilité de faire une exposition et puis finalement les temps étaient mûrs et on a pu vraiment concrétiser.
Et comment vous avez travaillé pour monter donc cette première grande exposition en France de Yu Min-jun ?
On a commencé, bon, déjà pour étudier un petit peu son catalogue raisonné d'environ 400 œuvres, et on est arrivé avec lui à ce choix d'une quarantaine. C'est un choix très très précis, ce qui a été à la fois toute l'aventure et toute la difficulté de cette exposition. Et donc c'est un choix qui est un petit peu orienté pour un public français, un tout petit peu, mais qui est faite uniquement de chefs-d'œuvre depuis le début de sa démarche artistique professionnelle, je dirais, au début des années 90, jusqu'aux toutes dernières expérimentations. Cela dit, l'exposition, elle n'est pas organisée de façon chronologique à proprement parler, sinon pour quelques moments, par exemple, ça commence avec les premiers tableaux, ça se termine avec les derniers, mais à l'intérieur de ce parcours, il n'y a pas vraiment de la chronologie, on a plutôt réuni les tableaux par typologie et par affinité visuelle. Donc il ne s'agit pas vraiment d'une rétrospective, mais quand même, on y voit par exemple bien défini et bien choisi tout son parcours.
Alors vous avez dit que le choix des œuvres s'était fait en fonction du pays d'accueil de l'exposition. C'est intéressant, si vous aviez fait cette exposition en Italie, en Allemagne ou en Angleterre, les tableaux n'auraient peut-être pas été les mêmes ?
Non, disons que on n'a pas fait ça pour la France exactement. Il est vrai que Yu Min-jun a travaillé beaucoup, par exemple, sur une réinterprétation de la peinture occidentale et qu'on a choisi exprès quelques icônes de la peinture française puisque l'exposition avait lieu à Paris. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est allé au-delà de toute nationalité, de toute convention et on a fait un choix de chef-d'œuvre, d'œuvres très très pures est très représentatif dans un catalogue qui est très très vaste, donc on ne pouvait pas tout montrer, donc on a essayé d'avoir par chaque typologie les plus beaux tableaux, les plus représentatifs et les plus voilà pas les plus faciles à avoir en fait, parce que mais on voulait vraiment cela et ça a été assez difficile de les retrouver et de les de refaire leur chemin à l'envers etc, d'arriver aux propriétaires, mais c'était très intéressant parce que au lieu de prendre ce qu'il y avait de disponible, on a véritablement, avec l'artiste, mûri une sélection très, très juste, je pense.
Et ces tableaux proviennent en majorité de collections privées ?
Oui, en majorité de collections privées, effectivement, bien que pas mal de musées en Europe, aux États-Unis et en Asie aussi en possèdent. Mais le choix, il est tombé sur ces œuvres-là qui sont plutôt dans des collections privées. Cela dit, il y a quelques tableaux qui viennent d'institutions publiques. Et surtout, ce qui était intéressant aussi de voir, c'est qu'ils viennent de tout le monde, de plusieurs pays d'Asie, de plusieurs pays d'Europe, des États-Unis, etc. Donc, on peut dire vraiment que sa renommée, elle est à 360 degrés et donc c'est un succès planétaire.
C'est vrai que c'est une renommée internationale. Alors, qui est vraiment cet artiste chinois, Yu Mingjun?
Donc, Yu Mingjun, il a une cinquantaine d'années aujourd'hui. Il a commencé, il a commencé en faisant des études de peinture, je dirais, académique. Donc, c'est comme ça qu'il a appris la technique. Ensuite, il a été envoyé travailler, comme tous les jeunes de son âge à cette époque-là, sur une plateforme pétrolière. Donc, en faisant des choses qui n'avaient rien à voir avec ses attitudes et ses espoirs. Et c'est au début des années 90 qu'il a intégré une communauté d'artistes qui vivait à la périphérie de Pékin, et c'est là où il a véritablement développé un style propre. Il a commencé un petit peu par sa propre admission à copier un peu les autres artistes, et puis petit à petit à se détacher de ça et à développer son style propre. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment toujours voulu être peintre, mais je pense encore plus qui a vu le monde à travers les yeux du peintre. Et donc, en fait, il y a plein de références dans ses œuvres, qu'on dirait des références politiques ou de faits divers, d'actualité, mais qui sont presque plus un commentaire des images qu'il a vues dans la presse et autour de lui, dans les grandes affiches. Vraiment un travail sur l'image encore plus que sur les faits.
Et il a vu le monde basculer du maoïsme à l'ouverture internationale.
Voilà, je pense que ça, toute son enfance a été nourrie d'images un peu clichés de la propagande socialiste. Donc peut-être de là est restée cette réminiscence de sourire un peu figé. Certaines images qui ont fait le tour du monde dans la presse, comme par exemple la fameuse image de Mao qui nage dans la fleuve jaune, sont devenues tellement iconiques qu'elles ont été reprises et réélaborées par l'artiste. Mais justement, je crois que c'est plus un peu à la Warhol, c'est plus l'image qu'il a et son effet planétaire que le fait en soi qui l'intéresse. Donc c'est là que je dis qu'il est vraiment, il a vraiment un œil de peintre et un fonctionnement d'artiste, de peintre sensible à l'image.
À propos de peinture, il a commencé très jeune à faire de la peinture de paysages sur le motif, comme les impressionnistes.
Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ça qu'ils enseignaient dans les académies à cette époque-là. Et l'académie lui a servi vraiment pour maîtriser l'outil et pouvoir, d'une certaine façon, s'en débarrasser ensuite. C'est-à-dire que sachant peindre plutôt bien, il a pu aborder les choses, certaines techniques et certaines méthodologies qui l'intéressaient, comme par exemple le très grand format, parce que c'est sans doute l'artiste des grands formats. Il y a quelques petits formats dans l'exposition, mais c'est vrai qu'il est très à l'aise sur des toiles très grandes, et ça depuis le tout début. Et ça, il le doit surtout au fait de ne pas avoir de problème à maîtriser la technique de la peinture.
Mais on sait pourquoi il affectionne particulièrement ces grands formats.
Je crois que ça aussi, c'est un petit peu, lui, il a toujours dit de se trouver à l'aise dans ces formats-là, de pouvoir déployer l'image, de pouvoir y ajouter des détails. Donc, il est probablement difficile pour un artiste d'expliquer pourquoi grand et pas petit, parce que dit comme ça, ce sont un peu des détails qui frappent, mais en réalité, je pense que il a été entouré de très grandes images. En fait, les images de la propagande ont été, en fait, ils accentuaient avec des techniques particulières cet effet d'hyperréalisme, justement pour que les images soient lues de très très loin, en fait, de très très, et donc par un très très grand nombre de gens. Donc ça peut venir de là, mais très franchement, c'est pas quelque chose que je lui ai entendu déclarer, c'est plutôt moi qui en tire des conclusions.
En tout cas, je la trouve intéressante, cette conclusion. Alors, il vit dans un village d'artistes près de Pékin, comme presque tous les artistes chinois de sa génération et même des plus jeunes, et donc finalement il a commencé par peindre ses amis avant de passer à l'autoportrait.
C'est ça, et c'est bien comme ça qu'on commence notre exposition avec un tableau de 1991 qui s'appelle Artist and His Friends, donc l'artiste et ses amis. Et c'est un tableau très important dans cette exposition. Elle ouvre l'exposition parce qu'on voit effectivement plusieurs personnages et ils sont tous différents. En fait, c'est vraiment des portraits. À cette époque-là, il n'avait pas encore développé son caractère, son personnage, son masque ou son avatar. d'art, je ne sais pas comment l'appeler, et on voit que les tout premiers tableaux rassemblent des physionomies différentes, enfin c'est des vrais gens différents. Et puis petit à petit, on voit dans la même salle se déployer une autre style et s'affirmer sa marque de fabrique quelque part, qui est ce personnage au sourire figé qui lui rassemble tant et qui pour autant ne nous fait pas l'effet d'un autoportrait.
Qu'est-ce que le réalisme cynique, ce mouvement auquel on le dit appartenir ?
On l'a défini le chef de file du réalisme cynique sans que le mouvement soit véritablement défini et sans que lui ne se revendique chef de file d'aucun mouvement en fait. Il faut dire que il y a eu un réalisme socialiste et à la suite de ça, dans les années 80 en Chine, il y a eu un réalisme plus critique. En fait, le réalisme socialiste consistait aux images de propagande où on voyait effectivement des personnages très souriants, même dans des conditions les plus dures, les mines, les champs, le travail, etc. Et ils étaient toujours pleins d'espoir et de sourire, donc avec une rhétorique assez présente. Et par la suite, il y a eu une série d'artistes, peintres, qui se définissait par un réalisme critique, donc qui effectivement commençait à peindre la vie comme elle était, avec ses noirceurs, avec sa fatigue quotidienne, etc. Et ensuite, bon, dans les années 80, il y a eu une belle ouverture culturelle, on a eu accès à l'information, etc. Mais après, avec l'effet de 89, tout ça, ça s'est révélé un petit peu une désillusion parce qu'il y a eu à nouveau une fermeture et un durcissement de conditions de rentrée des informations, etc. Donc, les artistes qui sont restés en Chine à ce moment-là, ils se sont retrouvés un petit peu dans le plus dur moment de la désillusion. Et c'est là que ce mouvement dit réalisme cynique, en réponse donc aux différents réalismes que la Chine avait connus, en peinture, en images, s'est défini de telle sorte, cynique dans le sens que justement définissait cette désillusion, cette sorte de chute des idéologies d'un côté, ouverture sur un marché global et international, plutôt macroscopique, mais pas encore affirmé ou pas encore reconnaissable en tant que tel par les gens dans la vie quotidienne. Et donc, voilà, un moment de vide, quoi. Et du coup, il y a eu cette sorte d'ironie. L'ironie, elle est toujours un peu cynique. Je veux dire, ce n'est pas de l'humour au sens serein du terme, mais il y a toujours comme une sorte d'inquiétude qui s'en dégage. Et voilà qu'on a appelé ça le réalisme cynique et qu'on a défini Wei Mingjun comme le chef de ce mouvement. En réalité, je pense qu'il a travaillé de façon plutôt autonome et non pas à l'intérieur d'un mouvement, sauf ce petit moment de communautaire qui lui a servi justement pour affirmer sa personnalité et puis se détacher. Donc, je ne crois pas qu'on peut vraiment le classer dans une tendance ou dans un mouvement, mais il est vrai que réalisme cynique et Wei Mingjun, à un moment donné, allaient ensemble.
Le rire, c'est la seule liberté que peut se permettre le peuple chinois face à la censure ?
Je ne sais pas si je peux répondre oui ou non à une question aussi complexe, parce que déjà je ne connais pas la situation de la censure chinoise autant que je le devrais. J'espère que ça ne soit pas le seul et unique. Il est vrai que on est dans un pays où voilà, la liberté de parole est une expression qui est peut-être un peu différente dans sa signification de ce qu'on peut donner nous. Mais il est vrai aussi qu'il y a des possibilités d'expression. Donc, très franchement, je pense que c'est un peu radical de dire ça. Je ne sais pas non plus si Wei Mingjun a véritablement utilisé cet escamotage puisque c'était le seul qu'il y avait. d'autres artistes en ont utilisé d'autres. Donc, il doit y avoir quand même une petite gamme parce que le pouvoir de l'image, il est quand même infini. Donc, je crois que Wei Mingjun, il a fait un choix qui est justement, qui est basé sur une sorte de légèreté d'une part, une sorte de... Le sourire d'un Wei Mingjun, il est toujours un gros plan et derrière, il y a plein de choses qui se passent. Donc, quand on voit juste un tableau ou deux, on ne s'en aperçoit pas parce que l'image du sourire nous reste figée dans la tête. Mais dans le cas d'une exposition comme ça où on a une quarantaine de tableaux, on peut effectivement rentrer, regarder bien dans les détails et voir qu'effectivement, il y a beaucoup de messages qui passent et que le sourire, il est un peu là comme un masque justement pour se protéger et en même temps pour pouvoir exprimer.
Parce que son sourire, il est souvent grinçant finalement.
Ah oui, on n'a jamais l'impression d'un sourire fier et convaincu. Il est clair que c'est plutôt une caricature, c'est plutôt c'est quelque chose de très figé. Ça n'apporte pas d'allégresse, si on veut.
Alors, dans le rire, il y a de la joie, mais aussi de la tristesse, comme chez Yu Mingjun, ce que laisse entrevoir d'ailleurs le titre de cette exposition, L'ombre du fou rire.
Oui, c'est un peu ça. Il y a de la tristesse et il y a surtout, comme je disais, il y a de la désillusion, quoi. Et à un moment donné, c'est un peu comme si le pouvoir voulait que tout continue comme avant. Et donc, c'est comme si Wei Mingjun disait vous voulez des sourires, eh bien, je vais vous en donner. Ça, c'est quelque chose qu'il a effectivement dit et je le cite volontiers parce que je pense que ça rend bien l'idée d'une façon très très simple avec ses propres mots.
Est-ce qu'on peut dire qu'il fait à sa façon de la peinture d'histoire?
Oui, je pense que oui, parce que ce moment-là va rester et ce type de peinture, cette imagerie, cette réinterprétation aussi d'une imagerie précédente, effectivement, toute œuvre d'art est un document historique et donc je pense que ça donne des indications sur la situation qu'il a vécue, que son pays a vécue. Dans les dernières 20-30 années.
Et en peinture d'histoire, je pensais aussi à sa manière de repeindre l'histoire, de reprendre les Goya, de reprendre tous ces grands peintres d'histoire du 19e siècle.
Oui, c'est tout à fait ça. Sa peinture, reprise de la peinture d'histoire, est à son tour une peinture d'histoire qui a fait trésor d'un certain nombre de références et qui les a réinterprétées. Il est vrai qu'il a choisi beaucoup de sujets religieux qui sont peut-être pas présents dans l'exposition, mais il est vrai que ses choix par rapport au tableau d'histoire sont des choix très précis. Limité peut-être de la visibilité qu'ils avaient par rapport à l'histoire de l'art occidental. Et donc ici, on voit certains tableaux qui sont la copie conforme version chinoise souriante de La liberté qui guide le peuple de Delacroix ou alors Le massacre de Chios du même artiste et qu'il a réinterprété l'exécution de l'empereur Maximilien de Manet qui à son tour s'inspirait de Goya. Donc finalement, il y a des passages comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'un peintre reprend un tableau. Manet, il avait repris le tableau de Goya, il s'en était inspiré. Et du coup, les deux ensemble combinés ont été repris par Wei Mingjun et donc l'histoire continue.
C'est vrai. J'ai découvert dans votre exposition que c'est par la photographie que finalement il expérimente ces personnages.
Ce que vous pouvez découvrir dans l'exposition, c'est un document assez privé, en fait. Wei Mingjun, bien entendu, il était d'accord avec nous quand on lui a proposé d'ajouter ce petit diaporama à ses tableaux. On le voit, en fait, prend la pose pour beaucoup de personnages qu'on retrouve en plus après dans ces tableaux. Il est presque nu, il est en slip sur sa terrasse, c'est son frère qui le prend en photo. Donc ce sont des documents de travail, je veux dire, ce n'est pas une œuvre d'art. On ne revendique pas non plus le fait d'avoir fait une œuvre d'art avec des photos prises sur une terrasse. Mais quelque part, c'est comme s'il cherchait une... comment dirais-je, il doit essayer toutes les positions pour pouvoir les mettre dans la peinture. Donc, en fait, il y a une implication physique de son propre corps. Bon, à part le fait que ce diaporama nous sert aussi pour voir qu'effectivement, oui, son personnage lui rassemble beaucoup. Mais en même temps, on voit bien qu'il n'y a pas une implication psychologique qui fait de ces autoportraits des vrais autoportraits. Au fond, c'est comme un avatar, c'est un personnage créé de toutes pièces. Et par pur hasard, ça lui rassemble.
C'est l'autoportrait de l'humanité chinoise. Il y a aussi chez lui une référence à l'imagerie populaire.
Oui, à l'imagerie populaire, je dirais, oui, de plusieurs sortes, en fait. Il y a le plus grand tableau de l'expo, se présente comme un labyrinthe. Il est sur fond rouge, donc il est très évident. Et à l'intérieur de ça, on voit des images très populaires, on voit des images du passé, on voit des images de sport, de mariage, de rassemblement, des images socialistes aussi, de la propagande socialiste. On a l'impression que c'est un petit peu comme son cerveau complètement ouvert, avec toutes les images qui s'y sont accumulées dans les 50 ans de son existence. Et donc, c'est plutôt intéressant de voir que finalement, oui, l'imagerie change, l'icono change, mais que dans notre cerveau, tout se stratifie et en fait, on est fait de ce que l'on a vécu.